I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Quelques jours seulement après la conclusion des finales NBA et alors que les Jeux Olympiques battent leur plein, et on a vu la France battre Team USA et tout le monde dans ce podcast en est très content, il nous faut parler draft. Selon le proverbe, selon la formule consacrée, on ne change pas une équipe qui gagne, alors cette année, même dispositif qu'en 2020, on a pris deux experts, on a compilé des questions de l'équipe Dunk Hebdo et on va demander aux experts de répondre à nos questions. Parmi ces deux experts, le premier, il vient de la maison, il officie également sur Envergure, c'est Monsieur Alain Guillou. Comment ça va?
Monsieur, ça va et toi Ben? Ça va super, c'est mon épisode préféré de l'année je pense.
Ah, moi, c'est celui où j'ai le moins de trucs à dire de l'année. Hein, c'est celui où je me pose, c'est le moins de préparation de l'année. Et puis, un invité, chose rare, un invité qui revient, chose encore plus rare, c'est Julien. Comment ça va, Julien?
Bah, moi aussi, c'est mon épisode préféré de l'année, vu que c'est le seul que je fais avec vous. Non, mais ça va très bien, très heureux de revenir avec vous. J'avais adoré le premier en novembre dernier, il n'y a pas si longtemps. Et, et la draft, pour moi aussi, c'est toujours passionnant, donc... En parler avec vous, ça l'est encore plus.
Oh, c'est gentil. Alors, Julien, on rappelle que tu es sur Inside Basket pour les Suns et la draft et que tu officies aussi maintenant sur Suns FR. Je répète ma question, tu es fan des Suns, est-ce que ça va? Est-ce que ça va après ce qui s'est passé?
Écoute, on s'y fait. Oui. Je pense qu'après 11 ans sans play-off, on peut, quoi qu'il arrive, pas juger cette campagne de play-off comme une mauvaise chose. La fin est très frustrante, surtout quand on a mené 2-0, mais... Écoute, oui, je suis un petit peu triste, mais ça va, grâce à la draft, j'ai pu vite passer à autre chose, et puis j'espère que cette finale va en appeler d'autres à Phoenix, tout simplement.
Eh ben, on vous souhaite ça, on en souhaite aussi pour Boston, hein. On a un représentant de l'Est, de l'Ouest, c'est parfait. On rappelle aussi, Julien, que tu interviens dans le podcast Inside the Hoop, et que tu es correspondant sport de la Provence. Quelle productivité, Alan, hein, ça nous rappelle un peu, on a passé le cap des 24 ans maintenant, hein, donc
vrai,
on peut plus être aussi productif.
Exactement.
Alors, j'en profite pour passer un petit message avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Dunk Hebdo recrute, on est à la recherche d'un graphiste et d'un community manager. Vous aurez toutes les infos sur notre compte Twitter. Compte Twitter qui, voilà, ce sera un petit peu la mission du community manager de gérer. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez nous contacter par message privé sur ce compte Twitter ou par mail contact@dunkhebdo.com, tout en minuscule, contact@dunkhebdo.com. Moi, j'en ai fini, cette intro était excessivement longue, alors on marque la petite pause et on se retrouve pour discuter de draft. Comme l'année dernière, chez Dunk Hebdo, on a réalisé un processus assez simple. Le reste de l'équipe, si on exclut Alan, n'est pas vraiment spécialiste de draft, donc on a fait quelque chose de encore très simple. On a compilé toute une série de questions, toutes nos interrogations vis-à-vis de cette draft, on les a triées, puis ça nous a donné une trame. Trame qui débute par une question qui va essayer de faire le pont entre la NBA et un peu la draft. C'est une question que j'ai posée moi-même, non, je ne m'envoie pas des fleurs dès le début de ce podcast. C'est vis-à-vis de la saison NBA 2020-2021. Elle vient de se terminer, Julien, et on le dit souvent, NBA, c'est une ligue où on copie les recettes gagnantes. Alors, est-ce qu'il y a un événement... l'explosion d'un joueur, une tendance qui a influencé ton jugement sur la draft 2021?
Ouais, forcément, t'as raison. On regarde toujours les tendances d'une saison et je dirais même les tendances en play-off hein, pour regarder quel prospect favorisé dans une draft. Alors surtout pour moi qui est assez jeune et qui fait donc ça depuis seulement quelques années. Oui, j'ai les play-offs 2021 m'ont influencé, je dirais, dans deux types de prospects tout particulièrement. D'abord, j'ai regardé les intérieurs différemment cette année, c'est-à-dire que c'est dans la continuité de quelque chose qu'on sait depuis plusieurs années, hein, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les big men classiques qui font seulement du jeu au poste puissant et seulement du rebond, ils sont plus recherchés en priorité. Maintenant, on va chercher des intérieurs qui sont voilà plus polyvalents, qui peuvent défendre le pick and roll, défendre en switch, voilà, qui peuvent donc plus ou moins contester des intérieurs, des extérieurs avec leur mobilité. Voilà, on regarde du tir extérieur, c'est chez eux également, ou au moins en tout cas des joueurs qui peuvent punir sur pick and roll en attaque avec efficacité. Donc ça, je dirais que cette tendance-là, elle est venue sûrement de la série d'Ivica Zubac contre Dallas, par exemple, qui a été quand même un révélateur assez important sur ce que doivent devenir les pivots dans la NBA moderne. Et puis en tant que fan des Suns, on en a parlé juste avant, comment ne pas retenir la belle leçon de la sélection de Mikal Bridges et de Cam Johnson en 2018 et 2019, qui ont été des sélections, alors surtout pour Cam Johnson, surprise, qui ont été contestées dans un premier temps, mais au final, on s'est rendu compte que c'était des super choix, parce que voilà, c'est des joueurs qui, certes, on le savait, ils n'ont pas un potentiel énorme, ça ne deviendra sûrement pas des joueurs à 20 points par match, enfin, peut-être Mikal Bridges, mais ce n'est pas gagné d'avance. Mais en tout cas, c'est des joueurs sûrs, qui apportent de la défense, qui apportent du 3 points, qui écartent le jeu, et ça, quand vous avez les bons leaders offensifs pour accompagner ces joueurs-là, bah, c'est très important, et donc forcément, j'ai accordé une belle importance aux ailiers shooters et aux ailiers qui ont un minimum de base défensive.
Ça me surprend pas vraiment. En réalité, j'avais noté entre parenthèses, je pensais à l'époque, au moment où j'ai écrit la trame, que tu allais m'amener vers ce chemin-là, et je pense que tu as parlé d'intérieur qui doivent protéger la raquette. Alan ne peut qu'acquiescer. Donc, Alan, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'étudier les prospects, de voir cette saison 2020-2021?
Sur les intérieurs, ouais, je suis d'accord avec Julien. De toute façon, ça fait quelques années qu'on le dit, qu'on voit que c'est plus tellement la productivité dans les ligues inférieures qui prédomine, c'est plus les capacités athlétiques, la projection en termes de polyvalence pour la défense. C'est avant tout un poste défensif qu'un poste offensif pour moi. Donc en fait, c'est ça, c'est là où tu dois un petit peu regarder ton joueur différemment. Après, sur l'idée du role player parfois jugé surdrafté, je suis assez d'accord, mais en fait, c'est parce qu'on juge mal ce que c'est qu'un role player, et on attribue trop facilement ce ticket à des joueurs qu'on pense juste qu'ils n'ont pas un assez gros potentiel ou soit qu'ils sont trop vieux. Mais en réalité, Bridges, c'était un des meilleurs défenseurs de NCAA et c'est un vrai bon athlète, et Johnson, c'était le meilleur tireur de la draft. Donc en réalité, c'était déjà des spécialistes de choses. Moi j'aime juste qu'on dise le mot role player pour tout gars en fait qui est juste pas assez haut sur notre board mais qu'on aime bien quand même pour qu'il fasse carrière, tu vois. C'est juste ça. Mais sinon non, vraiment ces deux choses-là, je suis complètement d'accord. Et moi j'avais noté aussi le backup meneur, parce que c'est un truc avec Tom, on en parle souvent avec toi aussi. Tout le monde veut des backup meneurs, il y en a pas assez, mais en même temps, on trouve à la draft, c'est super dur, parce que si t'es un bon joueur qui a la balle, bah, tu dois être drafté haut. Tu dois être drafté dans le top 15, dans le top 20. Donc, voilà, toujours faire attention à des joueurs qu'on prédit backup meneur, mais qui en réalité, ça sera vraiment compliqué, parce qu'on l'a vu en playoff, il y a des joueurs qui sont très bons et qui peuvent pas avoir le terrain, ou qui sont parfois négatifs.
Donc, ce que tu nous dis là, c'est role player pour toi, mais peut-être avec une spécialisation au préalable. Il y a déjà
En fait, quand je drafte un joueur hors loterie ou allez hors top 20, je veux des spécialistes. Hein. Je fais quelque chose très très bien, mais je fais le de manière excellente.
Des spécialistes qui à court, moyen, voire long terme pourront un peu compléter leur jeu par d'autres choses.
Voilà,
très
totalement.
Bien. Ok. Pour ce qui est du backup meneur, je trouve ça très intéressant parce qu'à mon époque, je parle comme si j'avais 50 ans, mais à mon époque, vis-à-vis de la draft, c'est un profil dont je me méfiais un petit peu. T'as quelque chose à rajouter, Julien, sur ce point-là? Ou alors on peut entamer le vif du sujet. Je te laisse.
Ce qu'a dit Alan est intéressant sur le backup meneur. Peut-être rajouter qu'il faut aussi regarder quel profil on regarde, parce que les backup meneurs, on peut vraiment, selon le type d'équipe, avoir tout et n'importe quoi. Je veux dire, si tu regardes Jordan Clarkson et TJ McConnell, c'est tous les deux des backup meneurs. Pourtant, c'est des joueurs qui ont rien à voir, tu vois. C'est-à-dire que faut regarder ce que les équipes priorisent. C'est-à-dire, est-ce qu'elles préfèrent un backup meneur qui va apporter de la sécurité, de la fiabilité balle en main et de l'organisation, ou un mec comme Clarkson qui va lui apporter des buckets, des paniers tout le temps, en jouant à 100 à l'heure. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi quel type de backup meneur on peut avoir à la draft.
C'est peut-être le deuxième profil qui pêche, celui de l'organisateur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un petit peu participé maintenant. Je me tais et j'écoute. Question draft, première question draft de Madiane qui nous a fait un petit parallèle avec l'année dernière. On continue d'entrer tranquillement dans cette draft 2021. L'année dernière, vous étiez déjà là tous les deux. Vous nous aviez dit à l'époque que c'était une draft, je cite, de role-player profonde, mais pas avec des picks ou des joueurs très forts. Alors cette année, ce que se demande Madiane, c'est est-ce qu'on est avec une draft où il y a des joueurs très très forts en haut et un peu moins de role-player ? Julien, tu es l'invité, je te laisse commencer.
Quel gentleman. Écoute, oui, cette draft, elle est meilleure que celle que l'an dernier au premier abord sur papier, c'est plutôt une évidence, ouais. Écoute, moi, ce que je dégagerais en parlant de cette draft, c'est d'abord un top 5, voire un top 6 vraiment fort. Voilà, avec des joueurs qui peuvent quasiment tous devenir des talents générationnels, devenir des All-Stars, des joueurs à qui je pense qu'on peut faire confiance comme des options offensives très sérieuses sur le long terme en NBA. Donc oui, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'an dernier. Hein. L'an dernier, dès qu'on sortait du top 3, il y avait très peu de garanties de trouver des joueurs très dominants offensivement. Voilà. Maintenant, sur le reste de la draft, je dirais pas non plus que c'est une draft qui manque de role-players. Comme dans chaque QV, il y a un bon lot de role-players. Il y en a peut-être un peu moins que l'an passé, mais en fin de premier tour, en début de second tour, et c'est intéressant par rapport à ce que disait Alan justement, c'est-à-dire qu'on a vraiment des spécialistes qui vont apporter, bah, notamment dans du tir évidemment, hein, c'est toujours ce qu'on regarde en premier, donc je pense à des joueurs comme Chris Duarte, à des joueurs comme Trey Murphy, voire même le français Joël Ayayi, qui sort de Gonzaga, qui lui est polyvalent et qui en plus apporte de l'efficacité au tir. Et je dirais que cette draft, peut-être ce que j'ai pas retrouvé l'an dernier et que je retrouve dans celle-ci, c'est des joueurs avec beaucoup d'upside. C'est-à-dire des joueurs qui, à l'instant T, apportent peu de garanties selon moi, mais qui sur le long terme peuvent être très rémunérateurs si une équipe prend le risque de les prendre. Donc ça, c'est plutôt des joueurs qui vont se retrouver entre la 10 et la 20e place. Donc je pense à des joueurs comme Zaire Williams, comme Josh Giddey, comme B.J. Boston ou Isaiah Jackson de Kentucky. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui n'ont pas fait une bonne saison en NCAA. Qui n'ont pas apporté beaucoup de garanties et qui ont produit beaucoup de déchets selon des contextes collectifs qui parfois n'étaient pas simples, hein, surtout à Kentucky. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des joueurs avec de l'upside et si des équipes prennent le risque avec eux, elles pourraient avoir beaucoup de réussite, même si évidemment c'est un énorme risque. C'est des joueurs que je ne retrouvais pas en 2020. Voilà.
Alors, je reste avec Julien deux secondes. Alan, tu étudies la draft depuis quelques années. Vu la façon dont tu me l'as décrit, j'ai l'impression que c'est la meilleure peut-être que tu aies jamais vue.
Non, je pense pas que c'est la meilleure que j'ai jamais vue. Par rapport à 2018, c'est quand même un ton en dessous, je dirais. Après, 2018, c'était un peu mes débuts aussi, donc j'ai un sentiment forcément différent. Mais non, 2018, c'était évidemment une draft avec un top 10 juste plein de talents. Non, celle-là est une très bonne draft. On verra sur le long terme qu'est-ce qui se passera, mais ouais, c'est une très bonne draft avec, pour moi, ouais, au moins deux ou trois talents offensifs extrêmement impressionnants. On en parlera tout à l'heure. Ouais.
Alan, Julien était dithyrambique. Est-ce que tu le rejoins sur la qualité de cette draft ?
Oui, je le rejoins par rapport à celle de l'année dernière. Parce qu'en réalité, comment on juge une draft, c'est ça, la qualité de la draft. Malheureusement, d'ailleurs, c'est souvent avec ce qui se passe en haut. Et donc, si tu mets les 120 joueurs qui devraient se faire drafter entre l'an passé et cette année, bah, la Mello que j'avais numéro 1 l'an passé, il serait quatrième cette année sur mon tout. Donc, il y a trois joueurs déjà cette année, je pense, qui seraient numéro 1 l'an passé. Ce qui prouve déjà que bon, tout en haut, c'est une meilleure draft. Ensuite, là où en fait l'an passé, on avait pas pour moi deux vrais bons joueurs en 1 et 2. Après, pour moi, il y avait un trou. Il y avait tu descendais dès le trou choix 3, après la Melo, après Anthony Edwards. Pour moi, on passait un cap déjà, tandis que là, ils sont trois. Bon, il y en a un qui est tout seul, hein, celui qui est en haut, on en parlera après. Après, on a deux très bons. Après, il y a un gap, par contre. C'est là, en fait, où je pense qu'il faut le dire. On est souvent assez dithyrambique sur les drafts. Toi, tu me le fais souvent. On en rigole tous les deux, souvent un an, voire deux ans à l'avance. Quand on voit beaucoup les joueurs jouer en high school ou quand on les voit avec Team ou chez les jeunes. En fait, il y a le contexte NCAA qui vient. D'autres types de contextes qui viennent nuancer le propos. Ça veut pas dire qu'il faut prendre juste ce qui s'est passé, comme a dit Julien, sur certains prospects durant la saison NCAA. C'est un contexte en plus qui permet d'évaluer un joueur sous différents aspects. Je pense que c'est extrêmement important. Sur les role players, ouais, il y en a, pour moi, il y en a un peu moins. Franchement, l'année dernière, j'en avais vraiment que je voyais, tu me disais que ce gars, il pouvait avoir deux contrats en NBA. J'étais pas surpris. J'avais une liste d'une dizaine de joueurs que j'avais comme ça, que j'avais même peut-être un peu surévalué, que j'avais mis un peu haut dans mon big board. cette année, je suis un peu moins confiant sur le nombre de joueurs qui auront deux contrats en NBA entre 10 et 30, on va dire. Parce que, voilà, c'est, je sais pas, il y a des joueurs un petit peu moins aboutis, il y en a, et puis moi, j'aime beaucoup drafter au talent aussi, plus qu'au fit, donc je surélève toujours les joueurs, donc la capacité à bust de certains prospects va être un peu plus importante cette année, j'ai l'impression, que l'année dernière. Et après, pour moi, c'est pas la meilleure draft que j'ai faite, 2018, c'était la meilleure. Mais elle est meilleure que 2020 et elle est meilleure que 2019.
Ok, donc si je simplifie pour ceux qui nous écoutent, c'est très fort en haut et peut-être derrière on a moins de certitude, mais il y a du potentiel. Très bien. Alan a dit oui, je m'excuse, le pisse froid dans ce genre d'épisode où j'explique souvent qu'une draft, on avait fait un épisode « Qu'est-ce qu'une bonne draft ?» en juillet dernier d'ailleurs, on vous invite à aller le réécouter. Une draft en moyenne, c'est un voire deux joueurs qui vont être intronisés au Hall of Fame, 6 ou 7 joueurs proches du niveau All-Star et une vingtaine de role-players. C'est pour vous donner une idée, quand tu commences à rentrer dans une draft où aux alentours de 30, il y a des role-players, c'est déjà une bonne cuvée. Alors, vous nous avez déjà un petit peu teasé qui se retrouvait en haut, donc on va continuer. C'est encore une question de moi, vous inquiétez pas, c'est bientôt la dernière. Encore une fois, je suis un petit peu dans la provoque, mais souvent, j'ai l'impression, depuis que je me suis éloigné de cette draft, que tous les 2 ou 3 ans, on annonce que ce joueur est le meilleur prospect depuis X, et ce X, souvent, c'est Anthony Davis, voire plus. Alors, Cade Cunningham, qui a l'air d'être promis au premier choix de la draft. Julien, est-ce qu'il est si générationnel que ça? Je précise, je pose cette question alors que j'ai juste vu des clips sur Twitter de lui. Je n'ai absolument aucun a priori. Juste, est-ce que c'est vraiment ce genre de talent?
Ouais, alors bah, je vais t'en parler un petit peu. Je laisserai Alan plus parler avec moi là-dessus parce qu'il a quand même plus d'expérience que moi, je pense, pour juger.
Tu le respectes trop, tu le respectes trop.
Non, je regarde juste l'expérience, vraiment. En tout cas, oui, Cade Cunningham, selon moi, est vraiment un talent générationnel, tout simplement parce que bah, il peut exceller dans tous les secteurs de l'attaque, en fait. Et c'est ce qu'on recherche. Et finalement, le type de talent le plus difficile à trouver, c'est le genre de scoreur un peu triple niveau qui peut scorer à 3 points, qui peut scorer à mi-distance, qui peut scorer de près, qui peut être une menace incroyable sur pick and roll, autant pour lui-même que pour les autres. Moi, je l'ai observé tout le week-end, là, juste avant de faire l'émission. C'était le dernier joueur que je préparais. Et franchement, c'est très impressionnant à quel point il a dominé en NCAA, à quel point il était au-dessus de la moyenne. Alors, c'était dans un style différent, mais par exemple, par rapport à un Zion, on est dans le même type de domination. C'est un joueur qui était facile et que les défenses ont doublé un nombre incalculable de fois. Vraiment, c'est rare de voir des défenses autant doublées en NCAA sur un joueur. Là, on sent que c'était vraiment la cible numéro 1 à Oklahoma et tout le monde le savait. Et je dirais que Cade Cunningham est impressionnant parce que même dans ses défauts, comme son corps et ses qualités physiques, je lui trouve quand même des points positifs et des arguments pour un petit peu atténuer ses lacunes. C'est-à-dire que oui, il n'est pas aussi explosif que d'autres guards dans cette draft, mais je trouve que c'est un joueur qui est très puissant et qui se sert très bien de son corps, en fait. Il sert très bien de sa puissance, notamment au drive. Voilà, il n'a pas le meilleur premier pas, il n'a pas la meilleure vitesse balle en main. Mais même si ça c'est un défaut, il arrive à contrer ça avec de la puissance, du bully, c'est-à-dire voilà, il rentre dans le lard de son défenseur et il arrive à créer de l'espace comme ça. Il arrive à se créer de l'espace avec un petit peu de footwork également. Et puis voilà, je crois que tous les pourcentages parlent pour lui. Il était à 50% sur des post-up, qui sont aussi un atout intéressant dans la variation de son jeu. De près, il en a pas tenté trop, mais il était à 63%, il était à 40% de loin. En tentant 6 trois points par match, il peut même faire du catch and shoot. C'est un athlète surpuissant. En défense, il est déjà très sérieux. C'est compliqué de lui trouver des points faibles. Il en a, et après je vais laisser Alan parler, notamment sur les 4 ballons perdus par match qu'il faisait à Oklahoma State. C'est un peu là-dessus que d'ailleurs tout le monde a émis les rares doutes qu'on peut voir en lui, mais je crois que son dribble manquait un peu de sécurité, mais ça va venir avec l'âge. Et puis voilà, encore une fois, je pense que c'est dû au fait qu'il a tiré toute la défense sur lui, et donc forcément avec ses prises à deux et toute l'attention qu'il a tirée, ça allait forcément le pousser à perdre des ballons pour un joueur qui est jeune. Mais sinon, je vois très peu de défauts. Cade Cunningham est un sacré talent, les Pistons peuvent être très contents.
Le premier choix est déjà anticipé. Je reste avec toi, Julien, juste pour une dernière question. Tu nous l'as dit, tu fais ça depuis 2018. La description que tu viens de faire est très élogieuse, très 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 élogieuse. Tu le classes où, du coup?
C'est compliqué parce que maintenant j'ai pris de l'expérience, tu vois, et je pense que je classais moins bien les talents avant. C'est-à-dire que par exemple, j'avais moins anticipé le talent que serait Luka Doncic par inexpérience. il faut le dire. Donc maintenant, c'est facile avec du recul de dire que je le classe en dessous de Luka Doncic, tu vois, parce que. Mais on est dans
c'est
le
déjà bien d'avoir ce recul là. C'est très bien.
Non, mais on est dans le même style de joueur, voilà, avec un gros volume de jeu, capable de créer pour les autres comme de créer pour lui-même. Vraiment, je trouve, j'en ai pas trop parlé, mais sa vision de jeu, elle est vraiment au-dessus de la moyenne aussi. C'est incroyable ce qu'il peut faire à la passe, dans les renversements, en transition, sur pick and roll, bref. Et donc je le classerai, ouais, top 3 ou top 5 depuis 4 ans, ouais. Allez.
Pas mal. Alan, je te laisse enchaîner sur Cade Cunningham, que je pense tu connais mieux que... Enfin, pas mieux... Autant, aussi bien que Julien, mais mieux que 99% de la population mondiale, je pense.
Ouais. Moi, en fait, j'en ai beaucoup trop parlé. Moi, c'est mon... Déjà, il faut le dire, c'est mon prospect préféré, en fait, depuis que je suis la draft. Voilà. C'est pas... J'ai pas un joueur que j'ai autant apprécié.
Oh non, me dis pas que ça va être pire que Trae Young. Attends. Là, c'est une discussion entre nous deux, là.
Ouais, je le préfère à Trae Young, ouais.
Oh là là, c'est chiant.
Et comme pour Trae Young, j'aurais raison. Donc, je prends moins de risques, on va dire. Moins de risques parce que c'est le numéro un consensuel. C'était le meilleur joueur au lycée. Quand il était avec Team USA, c'était le meilleur joueur alors qu'il était surclassé de 2 ans dans une compétition une Coupe du Monde. Il a toujours été le meilleur joueur. Il a toujours dominé physiquement. Et en fait, ce qu'on attendait cette année, en 2020-2021, c'était le tir. Parce qu'en fait, il avait toujours été un super créateur. Enfin, je pense que tu vas vraiment apprécier sa vision du jeu quand tu pourras le voir en NBA. La vision du jeu qu'il a, le sens de la passe pour un mec de 2 mètres avec ce handle-là, c'est assez fou, surtout sur pick and roll. On avait des doutes sur le tir. Il tirait mal, en fait. C'était pas gestuellement, ça allait, mais ça tombait pas dedans, en fait. Les pourcentages étaient pas super bon, et puis en fait il dominait tellement sur le drive et physiquement, c'est un porteur de balle de 2m1 qui physiquement était déjà assez près, donc c'est pas qu'il avait pas besoin de tirer, mais c'est qu'il pouvait peser autrement, et puis d'ailleurs il jouait toujours dans des équipes super fortes, donc en réalité ils exposaient tout le monde tout le temps. Cette année en fait il était dans une équipe toujours moins forte que ce qu'il, dans sa conférence, il a fait un choix, il a dit je vais aller au Oklahoma State, je vais avoir les ballons, voilà, je vais me montrer, un peu ce qu'avait fait Markel Fultz à Washington, c'est-à-dire on va sûrement pas avoir beaucoup de chance de gagner un titre, voilà. Mais je vais pouvoir montrer, je vais être le leader. Markel Fultz s'était blessé, ils avaient très peu gagné. Cade Cunningham a amené son équipe à la March Madness et elle les a fait même passer un tour dans un effectif. Il y a sûrement des professionnels dans cet effectif, mais je vois pas d'autres joueurs qui pourraient jouer à NBA dans cet effectif pour le moment. Peut-être, hein, du coup, ils pourront se développer. Et voilà, il a tourné à 41% à 3 points, 86% à ses francs, en prenant 2/3 de ses tirs à 3 points en pull-up. Voilà, c'est ça Cade Cunningham cette année. Donc c'est des tirs compliqués, des tirs qui sont rentrés. C'était un joueur de série, un mec qui a été capable de mettre 40 points en un match NCAA à 19 ans, d'être un vrai leader. C'est pas le genre de joueur extrêmement vocal ou extrêmement à taper dans les mains, un leader comme ça. C'est plus un mec assez froid qui veut montrer par l'exemple qu'il est là. Mais ça a été un vrai leader pour son équipe, très apprécié de ses coéquipiers. Il est assez mature, il est déjà papa. Une petite fille à son âge, comme Tatum d'ailleurs, c'est un point comme Jason Tatum. Et puis dans son jeu, on en a déjà tout dit, je pense que on l'a dit, c'est un joueur, il est pas meilleur que Luka Doncic. Luka Doncic, moi c'est le meilleur joueur que j'avais pu voir, que on regardait un peu des teenagers comme on dit, des adolescents, mais c'est le meilleur américain que moi j'ai pu voir. Et tu te rappelles comment j'étais très très chaud sur Zion Williamson par exemple. En termes physiques et tout, c'est moins bon. Il a des défauts, Cade Cunningham. Il a pas un premier pas élite. Aucun prospect n'est parfait de toute façon. Mais je pense que dans la construction d'équipe, c'est plus facile de construire ton équipe autour de Cade que de Zion. Donc c'est pour ça que je le préfère.
Au niveau de la question du tir, dernier petit point. Est-ce qu'on est sur le cas d'un joueur qui a eu toujours du mal au tir et il a une année un peu anomalie, ou alors c'est le fruit d'un travail qu'il a paye enfin?
Il a toujours été très très bon au lancer franc. Et juste, il a toujours été au-dessus des 80%. Et la mécanique était jamais cassée. Juste, ouais, c'était pas quelque chose qui maîtrisait très très bien. Alors, je pense pas qu'il vaut 41% à 3 points sur 2/3 de pull-up. Parce que si c'est ça, la NBA va vite avoir un problème. Mais, parce que quand tu tires autant en pull-up, c'est déjà à 35%, c'est très très bien. Mais, le tir n'est plus une question. Ou alors, elle est moins qu'avant. Elle peut rester une question encore sur certains aspects. Mais c'était la grosse question autour de lui. On l'avait quand même tous numéro 1. Et là, il a répondu à ça. Donc, c'est extrêmement rassurant.
Ok, bah, on a une question de Madiane sur est-ce qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne, mais j'ai l'impression que vous y avez répondu sans y répondre, c'est-à-dire que oui, il est largement au-dessus, pas au-dessus de la moyenne, mais en tout cas au-dessus du reste de cette cuvée, même si le haut est très fort. C'est ça, Julien?
Oui, oui, c'est ça. Pourtant, voilà, moi, je suis vraiment très haut sur les prospects qui le suivent. Mais Alan a tout dit, voilà, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne partout. Et je dirais que là où les autres prospects sont très forts, il arrive à les surpasser encore. Pour comparer, par exemple, avec un Jalen Suggs, il est beaucoup plus polyvalent offensivement et beaucoup plus tranchant pour scorer pour lui-même. Je trouve qu'il a plus de leadership des deux côtés du terrain, même si voilà, il est pas très vocal, mais il porte une équipe des deux côtés du terrain, contrairement à des joueurs comme Mobley ou Kuminga ou Barnes, sur qui on a des vrais doutes d'un côté ou de l'autre dans le top 6 de cette draft, tout simplement. Et à la limite, le seul argument qu'on peut lui concéder, je trouve, face à Jalen Green, c'est voilà sur le côté athlétisme. Et sur l'explosivité, où là Jalen Green, dont on va sûrement parler, est un joueur beaucoup bien meilleur que lui, mais ce truc c'est que Cunningham partout ailleurs il le surpasse en fait. Il a une bien meilleure vision de jeu, et il apporte beaucoup plus de garanties pour, voilà, comme il l'a dit Alan, créer une franchise autour de lui, et ça va être le projet de Détroit, même si on prend de l'avance, ça va être le projet de Détroit en le draftant. Donc oui, tu peux créer autour de lui une franchise, donc c'est bien meilleur que tout le monde.
Eh ben, très bien, on rappellera. Je suis juste là pour donner des petites informations. On rappellera que le pic 1 en moyenne dans l'histoire de la NBA en termes d'apport, c'est Paul George. Donc là, j'ai l'impression qu'on sera au-dessus. On sera au-dessus de Paul George. En tout cas, c'est intéressant. Donc on a refermé le chapitre Kate Cunningham. J'espère c'était très content en écoutant cette partie-là, parce qu'on sait que
il m'envoie des screenshots tous les jours, depuis il va très très bien.
Donc il va très très bien, parce que tout semble indiquer que Kate Cunningham va aller du côté de Détroit. On enchaîne avec le reste de ce groupe qui se détache. C'est une question de Tom. Sans le dire, vous l'aurez deviné, selon la façon
dont
la question a été posée. Quel joueur dans le top 6 a le plus de variance entre son ceiling théorique et ses chances de l'atteindre? Si je traduis ça un petit peu, si je rechange les mots, on dira quel joueur, en gros, a le plus d'écart entre son niveau moyen et le niveau ultime de ce joueur. Voilà, le Pokémon ultime du joueur. Julien, je vais rester avec toi. On parlera un peu plus tard du joueur qui a, à l'inverse, a le moins d'écart, et entre guillemets, on dira avec un peu de simplification, le plus sûr. Ah, déjà, le joueur pour lequel tu es un peu le moins sûr qu'il atteigne ce Pokémon ultime.
Alors on laissera Alan parler en premier, peut-être après, parce que j'ai l'impression que tu me donnes tous les privilèges. Le joueur...
Je suis invité, ça arrive tellement
on reçoit bien.
Ouais, je sais, vous allez me gêner. Pourtant, je sais que je suis haut sur lui, mais Jonathan Kuminga, en ce qui concerne donc un joueur qui a été en G League avec Jalen Green, donc pour mettre un peu de contexte, voilà, ça fait partie des fameux joueurs qui ont rejoint cette G League Ignite Team qui a été créée donc cette saison en 2020 par la NBA, donc pour attirer les meilleurs prospects avec un gros chèque et aussi tout le matériel à disposition pour leur entraînement, avec des coachs, avec voilà tout ce qu'il faut pour qu'ils deviennent les meilleurs athlètes possibles, les meilleurs basketteurs possibles, voilà, pour les écarter d'un contexte NCAA qui, il faut le dire, est en souffrance par rapport à la question de la rémunération des joueurs. C'est un long débat, mais voilà, pour expliquer un petit peu aux gens. Et donc Kuminga avec Jalen Green faisait partie des stars de ce programme, des joueurs qui étaient prévus dans le top 5 de cette draft avant la saison et qui le sont plus ou moins restés. Le truc, c'est que Jonathan Kuminga, comme on pouvait le craindre justement avec cette G League, c'est-à-dire qu'il a un peu souffert d'affronter des adultes aussitôt dans sa carrière, en fait. Kuminga est un joueur très jeune, il avait que 18 ans cette saison, et lui, on a vu que dans plusieurs secteurs, il n'était pas encore tout à fait prêt, et même s'il a un potentiel immense, pour l'instant, il n'est pas prêt, et je pense que l'équipe qui va le drafter ne devra pas être trop impatiente avec lui. C'est un joueur qui va notamment, on l'imagine devenir éventuellement un jour un mâle alpha, c'est-à-dire un joueur qui peut prendre la balle. C'est un ailier, hein, je l'ai pas précisé, pardon. C'est un ailier très athlétique qui peut jouer sur le poste 3 et 4. Et voilà, qu'on imagine un jour pouvoir capable de porter la balle, donc de shooter, de se créer son propre tir. Alors il est déjà très bon, je trouve, en ce qui concerne pour l'attaque du cercle. Voilà, là-dedans, il est déjà très agressif. Il atteint déjà des bons pourcentages d'efficacité. En revanche, dès qu'on s'écarte du cercle, il a fait une saison très compliquée en G-League où il a vraiment souffert d'affronter des adultes. Ses pourcentages, ils en attestent, hein, il était à 38% au tir, 24% à 3 points. Alors c'est sûr qu'il aurait des meilleurs pourcentages en étant en NCAA, mais malheureusement, Kuminga va souffrir de ce contexte G-League qu'il a vraiment confronté à la dure réalité de ce qu'est le monde professionnel ou presque, parce que voilà, faut quand même dire que la G-League, c'est un pur niveau, et moi, personnellement, je m'en suis rendu compte cette saison, là où je pouvais sous-estimer cette ligue par le passé. Voilà, je dirais qu'au shoot, il est pas atroce, il a une mécanique qui est pas horrible, ça peut s'améliorer, mais peut-être que ça progressera pas, parce que on a souvent vu dans l'histoire des joueurs avec une bonne mécanique, mais le déblocage ne venait jamais. Il y a des petits détails qui m'inquiètent, notamment sur ses pieds au tir, où ils sont pas toujours alignés. J'ai l'impression que dans son placement, il est un petit peu aléatoire. Voilà, ça, c'est des détails qui m'inquiètent un peu. Et puis, Kuminga est un joueur encore très maladroit, à la passe, il a perdu beaucoup de ballons, donc. Pour l'instant, je le vois pas devenir d'ici un ou deux ans un joueur dominant NBA, un joueur capable de scorer avec régularité. Peut-être qu'il le deviendra un jour, mais pour l'instant, j'ai très très peur, même si c'est un joueur voilà, physiquement impressionnant, avec une belle verticalité et une bonne attaque du cercle agressif. Mais peut-être qu'il n'atteindra jamais son potentiel pleinement. Voilà.
C'est tellement le genre de joueur que j'aurais adoré il y a 4-5 ans.
Exactement.
C'est horrible. Et du coup, attendu aux alentours de quelle position? Alors là, on est encore dans les mock drafts, etc. On sait que c'est jamais parfait, mais d'après ce que tu vois...
Bah, vraisemblablement, actuellement, ça oscille entre deux équipes. Donc, ça partira soit en 5 à Orlando, soit en 6 à OKC. Je le vois pas passer OKC.
Oh, c'est tellement le choix d'Orlando.
Il y a encore... Attends de savoir quelle est l'alternative qu'a Orlando pour lui. Tu vas adorer.
Ah ouais, ok, j'ai compris. Là, on est parti sur des bonnes bases. Là, je kiffe. Alan, alors, même question pour toi, le joueur qui a, voilà, je reprends les termes de Tom, le plus de variance entre son ceiling théorique et ses chances de l'atteindre.
Bah, c'est Jonathan Kuminga. C'est Jonathan Kuminga ou c'est Scotty Barnes? Mais, alors déjà, moi, je suis relou, hein, mais j'ai pas de top 6, je suis pas d'accord avec le consensus, on va dire. Moi,
C'est le Alan que j'aime, ça.
J'en ai trois. J'ai trois joueurs. Donc, Kate Cunningham, Evan Mobley et Jalen Green. Et après, en fait, je suis pas d'accord avec l'idée que potentiellement le trio donc Jalen Suggs, Scotty Barnes, Kuminga serait détaché d'une mêlée d'autres joueurs. D'ailleurs, si on regarde mon big board, j'ai Scotty Barnes en 4, mais j'ai Jalen Suggs en 6 et j'ai Jonathan Kuminga en 7. Donc, il y a un joueur que j'ai en 5 qui n'est pas dans un top 6 là. C'est James Booknight, pour les gens qui le savent pas. Le joueur de UConn. Mais, pour faire simple, c'est Jonathan Kuminga parce qu'en réalité, aujourd'hui, sur un terrain NBA, il est négatif offensivement. Il est négatif. Parce qu'en fait, il tire pas. Et il est pas assez bon balle en main pour que je lui donne la balle et que mon attaque soit ne serait-ce que solide. Donc, en réalité, il peut pas être solide sur ça. Donc il va falloir qu'il travaille. La comparaison avec Julien a raison, la comparaison avec Jalen Green, souffrir de ça, il peut, mais je pense que ça serait plus vis-à-vis du grand public. Les scouts en réalité, ils sont heureux, ils le disent, qu'il ait rejoint le programme de la G League, il s'est développé physiquement. Franchement, les installations qu'ils avaient donc à Walnut Creek en Californie, c'était impressionnant. Ils ont fait que de l'entraînement donc de quasiment septembre à février. Ensuite, ils ont eu la bulle. La espèce de mini bulle G League où ils sont allés, ils ont gagné des matchs dans cette ville. Beaucoup se demandaient s'ils allaient même ne serait-ce qu'en gagner un ou deux. Ils en ont gagné plusieurs. Et Kuminga était très bon au début, il s'est un petit peu blessé ensuite. Et là où Green a été le plus solide des prospects de la G League Ignite. Kuminga parce qu'il est plus jeune, il a commencé le basket plus tard. Voilà, il est d'origine congolaise, il est arrivé aux États-Unis quand il a été encore que 13-14 ans. Il a été extrêmement dominant physiquement au lycée, mais c'est normal parce que quand t'as son physique, c'est normal que tu domines des lycéens, quoi. Quand il est arrivé dans l'équipe du League, bah, il a affronté des professionnels et des joueurs qui étaient tous des stars ou des super bons joueurs de NCAA. Ça a été dur pour lui, mais ce qu'il pourrait devenir, c'est un ailier dominant aux ailes qui peut défendre, qui peut potentiellement créer son tir. En réalité, aujourd'hui, il est pas ça du tout. Donc, l'avoir sur le terrain, ben, ça peut t'aider soit à avoir le first pick en 2022, ce qui peut être un objectif pour certaines équipes, mais tu vas passer des moments compliqués avec lui, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Il y a un sens de, une appréhension collective et il y a un tir. C'est quand même deux choses extrêmement, importantes. Si tu me dis que dans 5 ans, il est plus en NBA, je peux le concevoir. Voilà. Je peux concevoir.
tous en premier à Orlando. C'est écrit Orlando en gros, tout ça. Hein, quand même. Non, mais on prévient forcément. Les questions sont un peu orientées, hein, mais forcément, on vous invite à aller voir le travail de Julien sur Inside Basket, celui d'Alan sur Envergure pour avoir un peu plus de nuances. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on passe de l'autre côté. Le joueur, selon vous, qui a le moins du coup d'écart entre... On va dire l'évolution. Les Pokémon ont 3 évolutions. Je suis désolé, j'ai jamais trop regardé Pokémon.
Ils ont certains 3, en ont 2, certains en ont pas. Mais il y en a qui en ont 3.
Ouais, ok. Bah, du coup, quelle est en gros l'évolution 2 et 3 okay. Selon toi, Julien, lequel a le moins de travail à faire?
Je vais laisser commencer Alan. Parce que je vais encore lui voler son joueur peut-être. Donc...
Bah, en vrai, c'est Cade, mais je vais pas le... c'est Cade, mais je vais pas le dire. Parce qu'il m'a dit top 6, Tom. Donc si c'est top 6, moi je dis Cade Cunningham. Mais je vais pas dire Cade Cunningham. Pour moi, c'est Evan Mobley. C'est l'intérieur de...
Ah, je suis content. Alors, je te coupe, mais je suis content qu'on m'en parle parce que il est partout sur mon feed Twitter et on n'a pas vraiment encore parlé de lui. Donc, je te laisse commencer.
Ouais. Donc, l'intérieur de USC, je pense que c'est le seul intérieur que je dois aimer dans les... Ouais, depuis que je fais la draft, quoi. Parce que ouais, j'avais été un peu... j'étais un peu celui qui était le James Wiseman hater l'an passé. J'étais pas méga fan de DeAndre Ayton ou de Bagley. En 2018, on se souvient, en 2019, il n'y avait pas trop d'intérieur, donc c'était un peu différent. Mais voilà, Evan Mobley, parce qu'en fait, juste par sa présence sur le terrain, je pense que déjà défensivement, tu vas être très solide. Il est, alors oui, les questions sur est-ce qu'il peut jouer 4 ou 5 encore, parce qu'il est assez maigre, il a les hanches très très hautes, en fait, il a des jambes immenses et un buste pas très grand, donc on a l'impression qu'il est, c'est un Mikado qui va se faire un peu tenser dans la peinture, mais juste par son QI, en fait. Son intelligence défensive, elle est, je trouve, pour moi, extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de rimrunners aujourd'hui qui protègent bien le cercle parce qu'en fait, athlétiquement, ils sont juste super, super forts. Lui, c'est un bon athlète. En fait, sa compréhension et son appréhension défensive, comprendre quoi faire quand il y a un pick and roll qui arrive vers lui, comment se placer, il le fait super bien. Son seul un petit peu souci, c'est les rebonds, donc, parce qu'il est un peu maigre encore. Mais en fait, moi, je pense que rien que pour ça, défensivement, il va être tout de suite bon NBA, alors pas très bon, pas excellent, faut arrêter. Les intérieurs, ils ont du mal aujourd'hui. Dès le début, Julien pourrait en parler. Un mec comme DeAndre Ayton, c'est vraiment une ascension qui se fait d'année en année, de mois en mois même. Voilà, je dirais ça. Et parce qu'en plus, il est pas non plus si loin que ça que son plus haut ceiling, parce que même si offensivement, je pense qu'il a énormément de choses, il peut faire plein de trucs, il peut passer, il peut dribbler, il shoot. Alors pas encore excellemment bien, mais il peut shooter. Je pense que ça sera par contre jamais une première ou une première option d'une équipe. Donc en réalité, son ceiling, il est peut-être un peu plus bas que ce que je vois pour un Jalen Green, mais il est proche peut-être de l'avoir.
Est-ce que ça peut être ce fameux 2-1 qui me font rêver, ces fameux 2-1, tu vois, deuxième option offensive, première option défensive?
Oui, complètement.
Ok, d'accord. On notera, je sais pas si elle a été faite exprès, hein, mais la magnifique référence Mikado, on est en ce moment Japon, empereur japonais, voilà, etc. Voilà. Ceux qui n'ont pas la référence iront checker. Hein, Mikado, c'est pas seulement des petites barres que vous mangez. C'est ce genre d'apport hein, que j'ai dans ce podcast. Très bien. Alors, Julien, même question pour toi. Tu as très gentiment passé la main à Alan. Est-ce que tu vas rester du côté de Mobley alors que ceux qui nous regardent sur YouTube, s'ils me voient gesticuler, c'est que je me bats actuellement avec une mouche. Donc voilà, je te laisse continuer.
Bonne bataille. non, bah écoute, ça va, je suis content parce que dans tous les cas, j'avais pas le même choix que Alan. Je partage ce qu'il dit sur les qualités défensives de Mobley pour revenir là-dessus rapidement. C'est vrai qu'il est intelligent, ça devrait faire la différence ça dès le début. Bah voilà, comparé à Ayton qui lui, voilà, défend beaucoup plus grâce à son physique et aujourd'hui ça paye. Vraiment, ça a été un défenseur incroyable en playoff, Ayton. Et vraiment, si Mobley, je pense que Mobley peut devenir un meilleur défenseur que Ayton, franchement. Hein, s'il prend du muscle et son QI basket va forcément suivre, donc je suis d'accord avec ça. En revanche, je suis beaucoup moins haut que Alan sur les qualités offensives d'Evan Mobley, où vraiment j'ai du mal à l'imaginer dans un rôle NBA pour l'instant, mais il en a très bien parlé.
Non, ça c'est intéressant. Ah, j'aime bien.
Ah, oui.
J'aime bien. Pourquoi tu l'imagines moins du coup dans un rôle qu'Alan?
Parce que en fait, voilà, comme l'a dit Alan, il sera pas dominant tout de suite. Mais moi, justement, quand je lis des articles ou je vois des vidéos sur Evan Mobley, beaucoup de gens en parlent comme limite un futur KD qui va être capable de prendre des pull-ups en sortie de dribble à mi-distance un jour. Alors, je dis pas que ça arrivera jamais, mais waouh, on est très très loin quand même. On est très très loin pour l'instant. Je pense que si Evan Mobley devient un bon rim runner en NBA, ce sera déjà un très très bon, ce sera déjà une bonne carrière pour lui. Sa vision de jeu, elle est bonne, mais Mais je sais pas, ouais, pour moi, il est trop frêle, il va se faire bouger, en fait. Donc, je vois mal comment il pourrait prendre position en poste haut. Et son tir extérieur, je l'ai vu prendre que des tirs en face, en fait, en face du panier, en pick and pop, enfin, pas forcément en pick and pop, mais en tout cas en catch and shoot, pas en sortie de dribble. Et il avait pas de pourcentage fou, il était qu'à 30%, je crois. Donc, en plus, avec un faible volume. Donc, ouais, je vois beaucoup moins de garanties offensives chez Evan Mobley, ouais.
Ok, bah c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que je t'ai coupé dans ton envol, mais tu peux continuer du coup sur le joueur dont t'es le plus sûr, tu avais à peine commencé.
Bah du coup, moi je vais rester en G League. Voilà, vu qu'on a parlé de Kuminga, donc on va parler de Jalen Green que j'ai déjà un peu teasé tout à l'heure. Jalen Green, c'est un joueur que je trouve vraiment très sûr en ce qui concerne un rôle assez simple, c'est-à-dire un arrière scoreur qui va apporter direct, enfin sur le long terme s'il atteint son plein potentiel, qui va apporter des paniers encore et encore, même si ce sera beaucoup moins complet qu'un Cunningham. Voilà, Jalen Green, c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné parce que voilà, il venait à peine d'avoir ses 19 ans quand la bulle de la G League a eu lieu, et pourtant il a été incroyable contre des adultes, balle en main. Je veux dire, son premier pas à Jalen Green, j'invite les gens à aller regarder des vidéos, c'est d'une vitesse folle. C'est vraiment rare de voir ça à un âge aussi jeune. Pour un joueur qui fait la différence facilement, quoi. Je trouve qu'il a une impression de facilité en G-League cette saison qui m'a vraiment scotché personnellement. C'est un athlète incroyable, dire qu'une fois lancé vers le drive, franchement, il a affiché des mecs sur des posters. J'aime aussi beaucoup cette façon qu'il a en arrivant au drive de pas forcément justement finir comme un bourrin au dunk, mais d'éviter les contacts pour finir avec son toucher. Il a planté beaucoup de tirs en déséquilibre. Et puis Jalen Green, c'est pas que ça. Voilà, c'est un joueur qui a aussi un gros tir extérieur. Voilà, dès la G League, il a pris 6 tirs, pareil, comme Cunningham, en moyenne 6 tirs à 3 points par match. Les pourcentages étaient un peu moins bons, à 36%, mais finalement, on peut penser que Cunningham aurait fait des pourcentages similaires en G League, parce que voilà, le niveau est supérieur, on l'a expliqué. Donc Jalen Green, pour moi, c'est un très bon shooter, c'est un très bon joueur au drive. Et je trouve que j'aime bien aussi dans son jeu, et que j'ai peu lu, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui est assez mature dans sa manière d'appréhender le jeu offensif, au sens que, bon, pour lui-même, hein, pas pour les autres, mais il vise l'efficacité. C'est-à-dire que quand je le vois balle en main, soit il attaque le cercle, soit il va prendre un pull-up à 3 points parce qu'il se fait confiance, c'est un joueur qui est ultra confiant, mais je le vois rarement prendre des tirs contestés à mi-distance. Voilà, ou alors j'ai pas vu les bons matchs, mais je crois qu'en tout cas j'ai la bonne référence, c'est-à-dire que voilà, lui il sait que les tirs efficaces au basket NBA aujourd'hui, c'est soit les drives où il va aller chercher des lancers où il va finir, soit à 3 points où il a des bons pourcentages. Et ça, je trouve que c'est un bon signe de maturité pour un joueur qui venait seulement d'avoir 19 ans dans ses matchs cette saison. Voilà, et puis c'est un bon athlète, hein, le mec fait quasiment 2 mètres et il est très sec, donc ça sera sans doute un bon défenseur. J'ai pas été conquis par sa défense cette saison, mais je suis convaincu qu'avec un peu de travail en NBA, ça sera un défenseur fiable, et il sera pas ciblé comme beaucoup de stars offensives sur les postes extérieurs. Donc ouais, Jalen Green, c'est un joueur très impressionnant. Je sais pas si ce sera lui ou Evan Mobley qu'Alan a défendu en second choix de la draft. Mais en tout cas, offensivement, c'est un joueur qui va apporter tout de suite de la contribution et que je vois sans souci tourner à plus de 20 points par match dans sa carrière.
En tout cas, ça me rassure parce que vous m'avez cité, j'ai entendu parler des 3 joueurs que je vois souvent mis 1, 2, 3 ou quel que soit l'ordre d'arrivée. Mais en tout cas, ça me rassure. Très bien. Même si j'ai aucun intérêt avec les 3 équipes qui choisissent en premier. On va continuer avec une étude de cas. C'est une question d'Adrien sur le Thunder d'Oklahoma City. Alors, comme ça, en y passant vite, alors j'aurais peut-être pas dû copier cette partie-là, on va passer. On fait quoi en étant Thunder? Est-ce que leurs 3 picks malheureux leur permettent de faire une Suns, Julien appréciera, Cam Johnson et Mikal Bridges en exemple, ou une tentative de montée est plus judicieuse? Bon, Julien va être gêné si je commence encore avec lui, donc Alan, je commence par toi. Tu es Sam Presti, alors déjà tu as pris sa place, bravo, qu'est-ce que tu fais?
Je pense que je package 16 et 18 pour monter en fin de loterie et je m'assure 2 joueurs que j'ai loterie sur mon big board. Voilà. Drafter 3 rookies déjà, c'est pas mal, c'est beaucoup. Je préfère en drafter 2 avec potentiellement plus de potentiel que 3. Alors oui, on va me dire, ça n'a pas toujours fonctionné. Oui, et pourtant on est monté en 10 après Zach Collins en échangeant le 15 et le 20, c'est pas exceptionnel, mais l'idée est bonne. L'idée était bonne, la réalisation ne l'était pas, mais c'est pas parce que ça s'est mal fait que l'idée de base elle est mauvaise en réalité. Je crois même que Utah était monté avec Denver pour chercher Donovan Mitchell, je crois en 2017 si de mémoire, là c'était pas atroce non
pas
plus
mal.
Comme idée, donc oui, en fait je pense qu'il y a des équipes à commencer par ça peut commencer dès Sacramento pour moi en 9 avec des équipes comme les Pelicans, des équipes comme Jules qui pourraient être intéressées peut-être pour descendre dans la draft si tu leur attaches un joueur solide. Le problème d'OKC c'est qu'en fait ils ont pas de joueurs solides qu'ils aimeraient se débarrasser parce qu'ils les ont déjà tous tradés il y a quelques années. Alors oui, ils ont, et je ne pense pas qu'ils peuvent trader Kemba Walker durant le support draft, je pense que ce sera pas possible. Donc en fait moi j'essaierai de packager 16 et 18, donc le choix qu'ils ont récupéré via le trade de Boston avec Kemba Walker le 16 et le, ou le 18, je sais plus, et le 18 c'est je sais plus qui c'est le choix, je crois que c'est Miami, pour monter en fin de loterie et m'assurer deux joueurs, deux bons joueurs. Moi il y a 14 joueurs où j'ai vraiment comme disent beaucoup dans les podcasts Foot US Draft, Ben on en écoute beaucoup, les grade, un premier tour, voilà. Il y a 14 joueurs. Après, pour moi...
Les bounty players.
Exactement. Il y en a beaucoup qui peuvent être pris au premier tour, ça me dérangerait pas, mais j'en vois 14 au-dessus. 15 peut-être. Donc, j'aimerais m'assurer, si je suis eux, deux de ces 15-là. Voilà.
De monter pour être sûr d'avoir un de ces talents-là. Ok, ouais. Rappelons que OKC, à l'heure où on enregistre, ils ont un joueur sous contrat qui a plus de 26 ans. Donc, donc voilà, ça vous donne une petite idée, hein, si on excluait tous les free agents, etc. Julien, tu es Sam Presti. Décidément, Sam Presti s'est fait voler son poste deux fois en cinq minutes. Qu'est-ce que tu fais?
C'est pas mérité en plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est intéressant parce que justement, moi, j'avais pensé la question à l'opposé d'Alan. C'est-à-dire que moi, justement, je pense que OKC pourrait gagner à choisir trois fois. Alors peut-être c'est mon inexpérience qui me fait dire ça, mais en fait,
Julien, alors on va s'arrêter tout de suite. Il faut vraiment muscler ton jeu.
Ça marche. non, voilà, je pense qu'en fait, il y a pas d'urgence de résultat à OKC, en fait. Il y a pas d'urgence de résultat à OKC, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont encore le temps pour se construire un effectif solide autour de Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, qui peut devenir un des meilleurs extérieurs de la ligue dans quelques années sur le long terme. Un effectif à construire autour de Pokuševski aussi, qui sera un futur Hall of Famer. non, ça c'est pour les drafts spécialistes. Non, plus sérieusement, voilà, je pense qu'il n'y a pas urgence, et donc construire un effectif, ils ont encore tout le temps de le faire. Ils ont encore un nombre incalculable de choix de draft dans les années à venir, donc ouais, je pense que pour l'instant ils peuvent se permettre de viser la quantité et plus tard de viser la qualité avec éventuellement ce genre de package dont on vient parler. C'est-à-dire que pour moi, voilà, avec leur sixième choix, ils peuvent prendre le joueur chez qui ils voient le plus de potentiel, donc éventuellement un Kuminga, même si on lui a mis pas mal de cassé de sucre
j'ai
sur son dos.
J'ai plus vraiment envie de le prendre, hein, après ce que vous avez dit, mais bon.
Ouais. Ouais. Non, mais je t'assure que ça peut, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc voilà, moi je prendrais le joueur avec le plus de potentiel avec le choix 6 ou un autre, hein, Book Knight, qui est un extérieur vraiment très très fort au tir, dont Alan a parlé très brièvement, pour être un très bon choix aussi. Et ensuite, je pense que le Thunder peut s'adapter au déroulement de la draft, en fait. Avec le choix 16-18, il y a souvent des joueurs qui glissent, il y a souvent des opportunités à aller chercher. Je veux dire, j'en parle beaucoup tout à l'heure et je vais revenir dessus. Si un joueur comme Zaire Williams de Stanford, qui est un jeune joueur à fort potentiel, qui sort un peu comme Kuminga d'une saison NCAA vraiment atroce, où il a été maladroit, où il a eu des pourcentages vraiment mauvais, où il a perdu beaucoup de ballons et où il a été très mauvais par rapport à ce qu'on voyait de lui en sortie de lycée. Si ce joueur-là retrouve les qualités qu'on lui a vues au lycée et que ça devient un ailier scoreur capable de se créer son propre tir, ça serait un super coup. Et ce, même si par exemple ils ont pris un Kuminga en 6 qui se révèle être un bust, et au final ils auraient une deuxième chance d'avoir un gros scoreur sur l'aile, tu vois. Et après avec le choix 18, je pense que là prendre un role player avec un peu d'upside, un peu de potentiel, serait pas une mauvaise idée. Peut-être plus un profil défensif comme Isaiah Jackson de Kentucky, qui lui voilà est un défenseur petit mais mobile, très vertical, qui pourrait les aider aussi de ce côté-là où pour l'instant ils ont pas trop construit. Donc ouais, moi voilà, je dirais OK, si doit garder ses choix, drafter à l'instinct avec du potentiel et un peu de garantie, parce que pour l'instant il y a pas d'urgence.
Et intéressant. J'aime bien ça, Julien. N'hésite pas à aller, rentre-lui dedans, hein, rentre-lui dedans. C'est très bien. Alors, on va continuer avec les prospects internationaux. C'est une question de Tom, on est en plein JO. Y a-t-il des prospects internationaux projetés en loterie? Oui ou non? Je sais plus avec qui commencer, du coup, avec ces histoires-là. Alan, vas-y.
Moi, j'en ai un en loterie. Donc, c'est Josh Giddey. C'est l'Australien qui jouait dans la National Basketball League, la NBL, qui est vraiment un prospect extrêmement intéressant, je trouve, un joueur extrêmement jeune, mais un vrai talent offensif. Après, les gens en ont un autre, donc Alperen Sengun, le pivot turc, du Beşiktaş que moi je drafterais pas dans le top je pense que je drafterais pas au premier tour. Voilà. Je pense que à partir de 22-23 pour un talent offensif sur les postes de pivot, un mec qui peut être un backup et mettre des points, ça peut m'intéresser. Puis il peut encore progresser, il est pas vieux, c'est un 2002. Mais lui est projeté par Sam Vecenie, parce que là la projection souvent c'est des gens qui ont un peu des infos et de gros médias. Alors Big Board souvent c'est un mix entre ce qu'ils pensent mais aussi ce qu'ils entendent. Tu prends moins de risques en faisant ce que t'entends parce que le soir de la draft t'auras raison entre guillemets pour les gens vu que ce que t'auras un peu prévu ça se déroulera. Et Sengun qui est un mec qui a été MVP de la Ligue turque cette année donc avec le Beşiktaş est projeté en loterie par pas mal de gens qui voient un talent offensif tellement fort que ça pourrait masquer ses problèmes défensifs, ce qui chez moi est un peu problématique.
Ça me fait tiquer aussi hein, parce qu'il y a très peu de joueurs qui font ça chez les grands. Je ne l'ai jamais vu jouer, je précise. Même question du coup pour toi Julien, les prospects internationaux. Donc là on est sur 1-2, c'est pas beaucoup en fait hein, comparé à certaines années.
Ouais, c'est vrai, c'est pas énorme, surtout qu'on aura sûrement ni l'un ni l'autre dans le top 10, contrairement à l'an dernier par exemple, ou même dans une classe de draft un peu moins forte, on a eu un Kylian Hayes. Moi, je suis un peu plus haut que Alan sur Alperen Sengun, qui, c'est vrai, ça, j'avais déjà lu ses articles à ce sujet, je sais qu'il est très dur avec le talent turc. Moi, je pense que voilà, Sengun peut être un
athlète vraiment... Préfère les Balkans, pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps. Je te laisse continuer.
Il n'y a pas de souci. Non, je pense que ça peut être un athlète qui a été un petit peu sous-estimé. Moi, j'aime beaucoup son potentiel athlétique. Sur des séquences en transition, je l'ai vu tenir la balle et finir lui-même. Je pense que ça peut être vraiment devenir une sorte de joueur qui, c'est vrai, on a peu ce genre de profil en NBA et la NBA a pas vraiment de rôle à lui offrir, mais malgré tout, avec autant de talent, il pourra forcément se développer. C'est un joueur que je trouve une bonne menace post-haut qui peut driver en un contre un, se créer son propre tir, se créer de l'espace de près. Alors peut-être que ça fera jamais mieux qu'un backup center, mais en attendant, je trouve que pour un remplaçant pivot, ça ferait un sixième homme vraiment du tonnerre. Je trouve que défensivement, il peut avoir du potentiel aussi. J'aime bien sa protection de cercle, il est très vertical, il a un bon timing, et je pense que il serait pas aussi catastrophique que certains pensent. Je vois que Alan n'est pas d'accord avec moi, mais bon, voilà, on connaît.
En fait, sur le talent offensif, je suis d'accord. Franchement, okay. Et en plus, on va dire que c'est un truc qui m'a fait. Je pense qu'il pâtit d'une forme de sympathie aussi parce que. Il peut être classé dans la catégorie des beaux joueurs. Voilà, c'est un beau joueur à regarder. Et donc, on aime souvent. Je trouve qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ça chez lui, parce qu'en plus c'est à l'intérieur. Et oui, c'est vrai, c'est sûrement un beau joueur à regarder. Et oui, je pense qu'en termes de talent pur et offensif, c'est peut-être un des. C'est un talent top 15. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai juste du mal avec la projection défensive. Ça va revenir un peu avec les playoffs. On en parlait au début. Pour moi, aujourd'hui, je pense pas qu'il peut jouer en playoff.
Ok, ok.
C'est juste ça que je dis. S'il peut jouer en playoff, alors là, il pourrait. Ou alors, pour qu'il joue en playoff, faut que son talent offensif soit tellement fort que ça masquerait peut-être les problèmes défensifs. Ce qu'un unique joueur pour moi a réussi à faire aujourd'hui, et il est serbe, et en fait, dès qu'on parle d'un prospect à l'intérieur et qu'on le compare à ce mec-là, moi, je peux pas. Je veux pas, mais sur tout le reste, je suis d'accord avec toi.
Ok. Non, voilà, sans dire que ça deviendra Nikola Jokic, je pense que ça peut être vraiment un joueur, voilà, juste très intéressant en sortie de banc et un pari à tenter, parce que s'il devient plus fort et s'il s'améliore défensivement, ça serait intéressant. Non, pour parler sinon de prospects internationaux proches de la loterie, alors je pense qu'il sera pas dans la loterie, mais il devrait être pas loin en fin de premier tour. J'ai envie de parler de Ousmane Garouba, moi, du Real Madrid,
qui est meilleur que Sengun en plus, donc c'est mieux.
C'est ton avis. En tout cas, qui lui défensivement apportera beaucoup plus de garanties que Sengun. En effet, là-dessus, on va être d'accord. Donc, c'est un prospect espagnol qui a un ailier fort, vraiment très athlétique, avec une grosse envergure, qui pourrait pourquoi pas jouer en petit 5. Il l'a fait en Euroleague beaucoup cette saison. Voilà, chez lui, ce qui est rassurant, c'est que même si c'est un talent très brut, il a connu le monde pro de cette saison, l'excellence européenne hein, avec le Real Madrid. Il a eu des grosses minutes, il a été bien responsabilisé dans un effectif où franchement. Il y avait du talent partout. Je trouve que Garouba est un joueur qui a un physique impressionnant et il apporte vraiment, des garanties folles en termes de verticalité et en défense. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il apporte dans l'attitude. dans la hargne, vraiment dans la protection du cercle, au rebond. C'est un joueur qui joue toujours à 100 à l'heure, il a un gros moteur, et ça, je trouve que c'est un type de joueur vraiment intéressant. Il serait sûrement disponible après la 20e place, sauf si une équipe tombe vraiment amoureuse de lui. Mais en tout cas, je trouve qu'en fin de premier tour, ça serait un super prospect international, très mobile. On parlait de voilà la défense en playoff. Garuba est très mobile, donc franchement, lui en playoff, je le vois très bien utilisé. Offensivement, on sait pas trop ce que ça va devenir. Voilà, il y a un tir en chantier, 31% à 3 points. Alors ça progresse, mais c'est pas encore quelque chose de vraiment très fiable. Le dribble, pareil, c'est pas vraiment très maîtrisé. La mécanique de tir, elle est un peu instable, elle est lente. Mais avec lui, au moins en fin de premier tour, t'as un futur défenseur polyvalent à utiliser. Donc voilà, je voulais en placer une pour l'Espagne.
D'accord. Bah, j'ai bien aimé ce petit débat. Puis Alan qui est bas sur un intérieur, ça ne il y a certaines cohérences et c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est un peu paradoxal vis-à-vis de ce qu'on a pu dire en début de podcast, l'idée de contribuer dans des équipes en playoff, etc. On reste dans le, alors vous y avez déjà un petit peu répondu, mais Alan, j'imagine du coup que si un joueur qui est projeté chez certains, entre 10 et 20, on va prendre une grosse fourchette, chez toi ne pourrait pas être drafté premier tour. Si on répond à la question de Tom, combien d'intérieur valent le coup d'être pris au premier tour selon vous, tu vas me répondre 1, 2, pas beaucoup, ça va pas être beaucoup.
Non, parce qu'en fait, j'en ai plein d'autres que je préfère à Sengun. J'en ai noté 6, mais en fait, c'est marrant, donc il y a Mobley, c'est un top 3 pour moi. Dans la loterie, j'en ai qu'un autre qui pourrait, et c'est le dernier de mon groupe, c'est Kai Jones, donc l'intérieur bahaméen de Texas, et ensuite après c'est que des joueurs que je prendrais entre 22 et 30, donc c'est premier tour, mais c'est pas top 20, il y a une différence pour moi. Donc c'est donc JT Thor, parce qu'il a le meilleur nom de la draft, il s'appelle Thor, et rien que pour ça il va finir à OKC. Donc l'intérieur d'Auburn,
wow.
Isaiah Jackson, le pivot de Kentucky, Ousmane Garuba, l'intérieur du Real Madrid, qui d'ailleurs a fait les matchs de prépa avec l'Espagne, si les gens veulent le voir, il a joué contre, là il a défendu KD, Jeremy Grant, Bam Adebayo la semaine dernière, et il a pas été ridicule, donc c'était intéressant à voir. Isaiah Todd, le troisième prospect de la G League Night, et j'ai mis Jeremiah Robinson Earl, qui est un intérieur de Villanova, mais lui c'est plus début de deuxième tour. Mais en fait, le point commun entre Jones, Thor, Jackson, Todd et Garuba, c'est que potentiellement ils peuvent défendre en switch et tirer à 3 points. Voilà. C'est juste pour ça que je les prends au premier tour.
Le dogmatisme de monsieur Alan Guillou. Non, mais en tout cas, je comprends du coup. 6, mais on voit, oui, il y en a beaucoup à la fin où ça fluctue un peu. Combien de ton côté, Julien?
Ouais, je suis comme lui. Moi, j'ai peut-être un 7e sur lequel je suis un peu tout seul sur le bateau, mais je vais assumer.
Exactement.
Ouais. Deron Sharp de North Carolina. Parce que oui, North Carolina peut encore former des grands prospects, même s'ils ont été beaucoup moins en vue ce programme cette saison. Alors c'est un joueur voilà qui a, quand il s'est déclaré à la draft, moi j'avoue que personnellement, pour pas avoir suivi la saison du UNC, je me suis demandé un peu d'où il sortait. Il était même pas titulaire là-bas. Mais c'est vrai qu'il a seulement 19 ans et c'est un joueur qui est intéressant parce que déjà cette saison, c'était une machine à rebond offensif. À rebond globalement, même moi je trouve que les rebonds offensifs c'est un bon facteur, ça montre à quel point un joueur a l'intelligence au placement et à quel point il peut avoir aussi de la volonté et de l'énergie dans ce secteur. Alors c'est un athlète qui est assez moyen, mais je trouve que défensivement il peut avoir du potentiel dans sa mobilité. Voilà, je dis pas que ça va être un défenseur à utiliser en playoff tout de suite, mais j'aime bien son timing, j'aime bien son jump sur certaines séquences. Je trouve qu'il peut plutôt bien gérer les situations de 2 contre 1, vous savez, où voilà, où il se retrouvera seul à devoir gérer deux mecs par exemple sur pick and roll. Et offensivement, ça va pas révolutionner le jeu, mais ça peut être un rim runner intéressant. Donc pareil, je trouve qu'en sortie de banc, ça peut devenir un joueur intéressant à tenter en fin de premier tour, voilà.
D'accord. 6-7. J'avais pas étudié cette question, je sais pas sur quelle moyenne on se situe, mais je pense pas qu'on est sur une moyenne haute ou basse, on doit être un peu au milieu. Alors, dernière question avant qu'on ait 3 dernières problématiques, qui sont un petit peu du coup c'est l'inverse d'une problématique parce que ça va être des questions en rafale. Un ou une style possible en fin de loterie. Alors j'ai mis un ou une parce qu'on je maintiens que c'est un mot qui est censé être masculin si on rejoint l'Académie française. Passons. C'est une question de Madiane. Alors, style parfois un peu difficile, joueur dans lequel vous avez le plus confiance, par exemple, Julien. Donc, qui t'as le plus confiance? Alors, t'as le droit de me dire un joueur qui a été cité précédemment, mais de m'en rajouter un autre. Hein. C'est totalement accepté.
Non, franchement, j'avoue qu'il y a plein de joueurs sur qui je suis assez haut dans cette draft, donc ça va, je vais pouvoir innover. Moi, il y a plein de talents extérieurs qui m'impressionnent en fin de premier tour. Et parmi eux, notamment, c'est un joueur qui voilà, devrait se situer là, aux alentours de la fin de la loterie. C'est le meneur d'Auburn, Sharif Cooper, qui a eu une saison un peu bizarre, parce qu'en gros, en NCAA, il a eu des problèmes par rapport à son éligibilité, ce qui fait que ça a retardé son début de saison. Il a commencé très tard la saison, il a pu jouer qu'une dizaine de matchs, donc ça a un peu compliqué sa cote dans les tableaux de la draft. Et voilà, on a un échantillon que faible sur ce qu'il peut faire, mais franchement, c'est un talent assez incroyable. Alors, c'est un meneur très petit, vraiment, et c'est principalement pour ça hein, qu'il est pas si haut que d'autres extérieurs dans cette draft, c'est que forcément défensivement il va se faire cibler, c'est une certitude. Il est petit et franchement je le vois pas défendre forcément bien en NBA, mais offensivement il a des qualités extrêmement impressionnantes et ouais, lui ça peut être un style, parce que s'il atteint son plein potentiel, ça peut être un très gros scoreur. Bah tiens, on parlait des meneurs backup, lui ça peut être totalement dans le style de Jordan Clarkson, à savoir un mec qui tourne à environ 15 points de moyenne en sortie de banc, quoi, s'il atteint son plein potentiel. J'aime beaucoup sa vitesse balle en main, j'aime beaucoup son handle, j'aime beaucoup sa manière d'agresser le cercle. C'est un joueur qui à Auburn a eu quasiment 8 lancers francs par match. Il allait les chercher, donc j'aime beaucoup voilà, sa manière à aller chercher le contact malgré ses lacunes physiques. Et puis ses lancers francs, il les convertit tout simplement, hein. Il était à 80% cette saison. Alors voilà, il y a une vraie question à 3 points, il était à 22% dans le tir à 3 points cette saison, c'est extrêmement faible et il va devoir progresser parce que sinon les défenses vont facilement s'adapter à lui et les défenseurs vont passer sous les écrans, ce qui va le forcer à tirer de loin et donc à chuter dans son efficacité. Mais franchement, ouais, c'est un joueur qui a beaucoup de hype, hein. Je pense que vous en entendrez parler ailleurs. C'est un joueur qui a beaucoup de hype, notamment voilà dans son potentiel offensif, dans le côté très smooth qu'il a dans son dribble, très rapide, très agile, qui fait des très bonnes passes. J'ai beaucoup aimé notamment sa vision de jeu en transition, voilà, où là-dessus il est capable de passes longues, spectaculaires, et c'est toujours un gage de talent technique et d'une bonne vision de jeu. Donc voilà, un joueur qui pourrait devenir une espèce d'agresseur de cercle avec une bonne vision de jeu, c'est un joueur qui m'impressionne pas mal. Ouais.
D'accord. J'ai juste tiqué, moi je me suis arrêté quand tu m'as dit meneur, il est pas très grand. Alors ça, c'est il y a des espèces de mots-clés dans ma tête. Hein,
ouais, et en plus, apparemment, je crois qu'à la Combine, ils l'ont vu encore plus petit que ce qu'il avait été annoncé à Auburn, donc ouais, c'est compliqué.
Ah, ok. Et alors toi, Alan, un ou une style possible, un joueur dans lequel t'as confiance?
Sharif, j'aime beaucoup. Sharif, je l'ai top 10, donc je sais pas. Je dirais Jaden Springer, moi. Donc, c'est un joueur, c'est le joueur de Tennessee. Donc c'est l'Américain le plus jeune de la draft déjà, donc il est super jeune. Il fait 1m94-95, 2m10 d'envergure, c'est-à-dire qu'il c'est une pieuvre. Puis offensivement, il a ce délire de espèce de folant. En fait, tu le vois jouer, t'as pas l'impression qu'il est fort au basket, mais en fait il va où il veut quand il veut et il fait les bonnes choses. Il me rappelle la gestuelle, je vois Malcolm Brogdon. En fait, je vois Malcolm Brogdon avec 4 ans de moins et donc peut-être plus de potentiel physique. T'as pas l'impression qu'il est fort au basket, t'as l'impression qu'il tasse un peu, mais en fait il est juste super bon. Très mal utilisé cette année à Tennessee, comme beaucoup de prospects depuis pas mal d'années malheureusement. Mais je pense que Jaden Springer est un vrai talent, un vrai joueur qui aura une carrière NBA de par sa jeunesse, de par le fait qu'il peut un peu tout faire, mais il l'a pas montré sur un énorme volume. Mais moi, ouais, si je dois parier, je dirais Jaden Springer de Tennessee. Et Cam Thomas des LSU, parce que potentiellement c'est un top 3 scoreur de la draft, mais le problème c'est que c'est un trou noir. Si on le prend en NBA et qu'on lui apprend à faire des passes, il mérite une sélection top 10. C'est pour ça que je l'ai top 10, parce que je pense qu'on peut toujours apprendre à des joueurs de faire des choses même dans le monde professionnel.
Ouais, excuse-moi Ben, après je te laisserai continuer. Je trouve que Alan a fait un choix très intéressant, parce que justement, c'est ce qu'on disait sur les types de backup meneurs en fait. Voilà, je trouve que là, avec Sharif Cooper et donc Jaden Springer, oui, je crois que c'est le bon prénom, ouais. Je confonds avec les Jared et les Jaden. Avec Jaden Springer, si on a deux types de meneurs backup totalement différents, Springer peut devenir un très bon attaquant, mais je trouve qu'au minimum, ce sera un bon organisateur. J'ai bien aimé sa défense, parce que lui, pareil, physiquement, il est pas au-dessus de la moyenne, c'est un joueur qui est très sec, et donc il est pas mal pour agresser le porteur et pour provoquer des interceptions, même si je pense qu'il a un peu bénéficié de la bonne défense de Tennessee là-dedans. Mais ouais, je trouve qu'on a les deux types de meneurs backup. Voilà, Springer pour devenir un backup très intelligent, un bon organisateur, parce que voilà, là, pareil, à Tennessee, il n'a pas eu les bons coéquipiers à côté, mais je suis sûr qu'il peut vraiment générer beaucoup de passes décisives. Et donc Cooper, c'est voilà plus le meneur classique qui va aller chercher des paniers comme mission principale. Donc je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les meneurs backup. Voilà, tout simplement.
Ok, bah tu peux, coupe-moi quand tu veux, c'est bienvenu Julien. Alors pour terminer, on a des questions un peu plus rapides. Pour terminer, alors on en a une première. Quel joueur a le plus bénéficié de la saison dernière pour sa cote ? Alan, je vais commencer par toi.
Sengun, parce qu'il est passé, il y a un an, personne ne l'avait au premier tour. Et aujourd'hui, il est loterie dans des boards, donc de par sa saison. Jalen Suggs, parce que Jalen Suggs, aujourd'hui, il est candidat au top 5, alors que, il y a un an, dans un peu les big boards et tout, il était un peu plus entre 10 et 15. Donc, en fait, monter de 10 à 15 à 5, c'est quelque chose, hein. C'est assez important de par la saison qu'il a faite. Et puis, tu l'aimeras bien aussi parce que c'était une méga star quarterback au lycée et il a choisi le basket. Sur ça, c'est assez cool. Et Davion Mitchell, de Baylor, parce que aujourd'hui il est loterie alors que avant la saison il était pas au premier tour. Ces trois joueurs là, ouais, aujourd'hui ils sont loterie. Si tu faisais un big board il y a un an, Jalen Suggs aurait été entre 10 et 15, Sengun et Mitchell n'auraient pas été au premier tour.
Belle montée. Et toi Julien?
Il a tout dit. Ouais, j'ai même été étonné qu'il cite pas Davion Mitchell en premier parce que ouais, Davion Mitchell c'est vraiment le prototype du joueur qui a explosé dans le tableau cette saison. Baylor est champion NCAA, il faut le dire, devant Gonzaga, les Invincibles, ce sont les seuls à avoir réussi à les battre en finale NCAA, dans une finale magnifique. Et Mitchell a vraiment porté cette équipe, c'est ça qui lui a bénéficié. Faut dire qu'il a défendu le fer. Hein. Franchement, cette saison, moi j'étais personnellement très impressionné par sa défense et la rapidité qu'il a sur ses jambes. En fait, c'est extrêmement rare de voir un joueur aussi rapide sur ses jambes. Moi, je regarde la vidéo, c'est impressionnant. Offensivement, je sais pas trop ce qu'il va devenir, mais oui, il en a beaucoup bénéficié. Je rajouterais juste peut-être des noms que Alan a cité sur Corey Kispert, coéquipier de Jalen Suggs à Gonzaga, qui pareil a fait une saison de malade mental au shoot avec des pourcentages incroyables, et donc forcément qu'il en a bénéficié parce que tout le monde voit en lui une sorte de Joe Harris pour comparer dans le rôle qu'il pourrait avoir en NBA. Et peut-être un joueur, mais lui pour le coup, il est pas particulièrement toujours haut dans les tableaux de draft. J'ai hâte de voir quel destin la draft va lui réserver. C'est Miles McBride de West Virginia qui a fait une très belle progression entre sa saison 1 et sa saison 2. En saison 2, qui a montré des vrais progrès, notamment au pull-up dans une mi-distance, et puis qui de base a des qualités défensives vraiment pareilles, de défenseur agressif sur l'homme, impressionnante. Et je pensais qu'on le retrouverait plus haut dans les tableaux. Et pour l'instant, il a annoncé que qu'en fin de premier tour, ou surtout en début de second tour, en fait, alors que lui, ça pourrait être un vrai style aussi. Voilà.
Là où se situe ta passion, parce que Julien nous a dit avant d'enregistrer, moi, ma passion, c'est le second tour. Très bien. Eh bien, alors, second tour, il a été pris au second tour ou pas?
Ouais. Non, en 30.
Ah, forcément.
C'était déjà assez dur comme ça de le voir descendre ce soir-là, je te rappelle.
Alors, qui est le Kevin Porter Jr. de cette draft? C'est une question de Tom qui, je trouve, a amené beaucoup de réponses possibles, déjà rien qu'à l'interprétation même de la question. Qu'est-ce que ça veut dire être le Kevin Porter Jr. de cette draft? Alors, Alan, selon toi, qui est le Kevin Porter Jr. de cette draft?
Bah, si ça veut dire le talent qui descend au moment de la draft, c'est Zaire Williams, parce que Zaire Williams, il ne doit pas descendre trop dans la draft. En fait, c'est un jeu entre toi et moi. C'est parce que il me taquinait pas mal parce que j'avais Kevin Porter très haut au moment de la draft. Oui, je l'avais en 5. Et il est parti en 30. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un problème. Il est parti en 30. Moi, j'ai Zaire Williams parce que Zaire Williams, c'est toujours un joueur que j'ai dans mon top 10. Julien en a un petit peu parlé. Saison compliquée à Stanford. De sa faute, mais pas que de sa faute. Parce que c'était pas, l'équipe a perdu un peu en qualité. C'était pas simple aussi dans la Pac-12, donc sur la côte pacifique à cause du Covid. Ils ont eu pas mal de matchs annulés. Ils pouvaient pas vivre sur les campus très très bien. Et en fait, ils ont eu pas mal de fois trois matchs en trois jours contre la même équipe, ou des trucs comme ça un peu bizarres pour des joueurs NCAA. C'était pas vraiment top pour se mettre en jambes. Mais c'est un gros talent offensif. S'il travaille le dribble, voilà. J'ai jamais vu un joueur aussi fort et aussi talentueux au basket avec un dribble aussi nul. C'est-à-dire que je comprends pas comment c'est possible. Mais il est, en termes de shot making, de tir en sortie de dribble, de pull-up, d'intelligence, de QI, c'est super fort. Donc je dirais Zaire Williams sur ça, c'est-à-dire le talent qui ne doit pas descendre, pour moi c'est lui. Après, si Springer descend, il doit pas descendre, j'en ai parlé il y a 2 minutes, il y a 2 minutes, mais voilà, c'est Zaire Williams.
Et toi, Julien, donc définition, compréhension de la question assez positive. Et toi, alors, deux questions dans cette question. Du coup, Julien, comment t'as compris la question et quelle est ta réponse?
Eh ben justement, ta question, je ne la comprenais pas. Non, je t'avoue que ouais, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il parle de mental? Est-ce qu'il parle de, voilà, de l'interprétation que vient d'en faire Alan? Du coup, je vais rester sur l'interprétation d'Alan. Moi, j'ai dit que, voilà, je l'ai déjà dit, je suis assez chaud sur certains extérieurs de cette draft dans le premier tour. Donc, je vais pas en faire aussi long, mais dans le même style qu'un Sharif Cooper, il y a un Treman, qui selon moi serait une erreur de le faire chuter. Treman de Florida, je vois qu'Alan se tape le torse. Qui, voilà. Qui est un super meneur, bah voilà, pareil, c'est un joueur qui a beaucoup de hype, hein, comme Sharif Cooper, parce que balle en main, il sait tout faire en fait, c'est incroyable son dribble. Moi, je l'ai découvert, j'avoue, à la March Madness, j'avais pas regardé Florida cette saison, je suis coupable.
Mais ça joue mal, hein, donc c'est pas grave, hein, t'inquiète.
Merci. <C'est... rire> Ah, mais j'ai bien regardé Tennessee, tu vois, j'ai bien regardé Tennessee, donc finalement, j'aime me faire du mal aussi.
Mais on sait pourquoi t'as regardé Tennessee.
Évidemment, je représente la Provence avec qui je pense. Voilà, donc Treman qui est un meneur très smooth, très beau à voir jouer balle en main avec un dribble incroyable, qui peut shooter de loin, qui peut être un sniper phénoménal. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va s'adapter au contexte NBA? J'en ai aucune idée et c'est pour ça qu'il peut shooter. Mais attention à ce meneur en fin de premier tour, ça serait vraiment l'occasion à prendre comme Cleveland l'avait fait en échangeant un bon gros paquet de second tour pour Kevin Porter Jr., même s'ils ont fini par le lâcher quelques années plus tard.
Alan, ça te fait mal d'entendre ça. Je sais, j'enchaîne très rapidement.
Non, parce que dans ma tête, j'imagine son prochain bac court avec peut-être Jalen Green à Houston et je salive d'avance. C'est la faute de Cleveland, c'est leur problème.
Il y a tellement de choses qui nous séparent maintenant. Alors du coup, dernière question, quel joueur remonte le plus depuis la fin de la saison? Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, qui voit son nom climbing, on dit toujours ça, voilà, ça escalade les draft boards. Julien, allez, pour la dernière, je commence par toi. Qui escalade en ce moment les mock drafts et les draft boards?
Ah, je vais voler le chouchou d'Alan, mais qui d'autre que James Bouknight? Franchement, lui, voilà, il est maintenant dans à peu près tous les top 10, alors qu'il n'était pas du tout dedans au début. C'est un scoreur extérieur, donc poste d'arrière, qui pourrait vraiment surprendre par son jeu all around, avec l'accent anglais incroyable, son jeu all around offensivement, parce que je sais pas si c'est un scoreur triple niveau, mais en tout cas il a de la confiance en son jeu, il a de la confiance en son dribble et ça lui a permis d'avoir des super pourcentages donc en année sophomore dans le Connecticut cette saison à UConn. Et en fait c'est un bon athlète, donc moi à partir de là, une fois que je coche les cases athlète très explosif et scoreur fiable en sortie de dribble ou au catch, à partir de là on est forcément obligé de prêter un œil attentif à ce type d'extérieur. Voilà, il adore les iso, il a une grosse confiance en son pull-up, il se crée son espace très bien, notamment à mi-distance. Et moi qui fan des Suns, c'est d'un joueur comme Devin Booker, les joueurs qui se créent leur espace comme ça à mi-distance avec le footwork, avec leur contrôle du corps, j'adore ça. Donc Bouknight est un joueur très intriguant dans ce top 10 et je pense que Alan va pouvoir en parler encore mieux que moi. Tiens.
Il y a quand même énormément de potentiel de jeu de mots dans cette draft. Alan continue, parce que le mec s'appelle Bouknight quand même. Bref, vas-y Alan, le joueur qui a le plus remonté depuis la fin de la saison.
Bah en fait, on va dire que il y a une frange de Twitter quand tu suis la draft, c'est la NBA draft Twitter, où en fait beaucoup de deepsters et je me mets dedans parce qu'il y a pas de problème. Moi, je parle de joueurs dont tout le monde se fout. Donc je pourrais être pour certains la définition d'un hipster. Donc ça me dérange pas. Et en fait, si tu suis un peu les, parce qu'en fait, personne ne peut tout voir. C'est pas possible. Donc après la saison, tu vas revoir des matchs et tu retombes sur des joueurs. Et souvent, t'as des joueurs qui, à l'approche du combine, par exemple, grâce à des tests physiques ou à l'approche d'une fin de saison où tu l'as vu que dans un joueur, tu regardais un joueur puis tu l'as vu contre un autre et en fait ce mec là t'as sauté aux yeux. Et en fait ouais, pour moi il y a trois noms qui depuis 2 mois on savait que c'était des bons joueurs, mais en fait des gens ont donné tous envie à d'autres d'aller voir les matchs et depuis ils remontent pas mal. Donc il y a JT Thor, donc l'intérieur d'Auburn, le soudanais d'origine, lui il monte de partout, il peut être top 20 alors que il y a 3 mois, tout le monde disait qu'il fallait qu'il retourne à la fac. Donc, il monte. Il y a Trey Murphy, qui joue à Virginia. Lui, c'est dans le délire un peu role player. tout le monde a arrêté voir ses matchs et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, bah, il mettait tout à 3 points en catch and shoot, qu'il était grand et qu'il défendait bien. Donc tout le monde se dit, ah ouais, ce mec-là, sûrement top 20. Et il y a Nashon Highland, prénom le plus incroyable du monde, N-A-H apostrophe grand S-H-O-N, c'est son prénom. Donc il y a deux majuscules et un point de ponctuation dans son prénom, qui lui a fait un combine excellent. Et des suites de ce combine, des gens ont été revoir ses matchs. Et je pense qu'il sera au premier tour. Je pense qu'il sera au premier tour. Sam Vecenie là au premier tour. Je crois que Kevin O'Connor de The Ringer là au premier tour. Chad Ford qui dit parfois n'importe quoi, mais en fait a beaucoup d'oreilles dans ce qu'il se dit. Donc quand il dit quelque chose, c'est parce que souvent on l'a entendu. Là aussi dans ses alentours, je pense qu'en fait ces trois joueurs-là seront pris au premier tour ou seront pris dans les 35 premiers jours, alors qu'en fait, il y a deux mois, c'était pas du tout sûr. Donc, je dirais ces trois mecs-là.
Ok, ok. Et alors, c'était pas dans la trame, mais je le rajoute parce que, on l'a dit, Julien est correspondant basket pour la Provence. Il a cité son nom il y a quelques minutes, donc Yves Ponce, représentant de la cocarde française. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Voilà, parce qu'on sait que tu, du coup, c'est un joueur que tu connais très, très bien. Son profil, peut-être sa position que tu estimes qu'on peut espérer à cette draft de la semaine prochaine.
C'est un très bel honneur que tu me permets de parler de mon local. Ouais. Bah, Yves Ponce, que dire si ce n'est que c'est un athlète incroyable en fait. Sinon, c'est que là-dessus qu'il peut se faire drafter. À Tennessee, franchement, ça a été un défenseur tout le long incroyable. Il a été donc meilleur défenseur de la conférence Sud-Est en 2020. Donc juste dès que le Covid a été annoncé en fait, enfin dès que le Covid est arrivé plutôt, c'est pas un événement. et en fait, c'est un défenseur incroyable et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il va se faire drafter si jamais il a le bonheur de l'être. C'est-à-dire que franchement, défensivement, il a tout pour réussir en NBA pour moi ce mec. C'est en fait voilà, il a été utilisé comme un petit 4 à Tennessee parce que malgré tout, en fait, il est très massif mais il fait même pas 2 mètres. Et il fait que 1,98, donc finalement c'est comme un Jalen Green qui est un arrière qu'on retrouvera dans le top 3 dont on a parlé tout à l'heure. C'est la même taille, mais évidemment physiquement c'est un monstre. Physiquement il lâche des contres exceptionnels depuis des années, ça je pense que vous l'avez vu tourner dans les highlights Twitter peut-être si vous traînez un peu. Voilà, le problème c'est que bah il est pas prévu avant la 40e place au minimum parce que offensivement il y a une flopée de doutes. Quel type d'attaquant il va devenir en NBA, j'en ai aucune idée. Il pourrait devenir un free and D, sauf que le 3 points à Tennessee, c'était pas du tout ça. Il a été tout le long en dessous des 30%, donc c'est très inquiétant. Pour en avoir parlé personnellement avec lui, il me dit qu'à l'entraînement, il le travaille. Je sais qu'il a parlé avec Envergure et avec Alan aussi. Je sais qu'à l'entraînement, il réussit beaucoup. Son problème, c'est que c'est l'éternel problème. C'est bien de réussir à l'entraînement, mais si ça ne matérialise jamais en match, eh ben les équipes NBA vont s'en foutre, en fait. Je sais qu'à la Combine, pareil, il a apparemment été très bon dans son shoot, mais... Encore une fois, il n'y a aucune garantie que ça se transforme en match. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Maintenant, c'est un défenseur incroyable. Et rien que pour ça, moi, je lui offrirais une sélection aux alentours de la 45e, 50e place. Parce que, comme le disait Alan au tout début de la loterie, au tout début de cette émission, pardon, j'en perds mes mots. Quand on choisit dans le second tour, on choisit un mec qui va apporter une force principale sur Yves Ponce. Ça apporte un boost défensif en sortie de banc incroyable, selon moi. Après, je suis objectif.
Ok, non mais c'était très intéressant et c'était fait avec le cœur et c'est ça qui compte parfois, très bien. Eh bien, on en a fini pour cet épisode qui avait pour objectif de vous présenter...
Je dis, ben, ouais, 3% de body fat, il a été calculé au combine, ouais 3 ou 4. C'est irréel hein, pour les gens, incroyable. C'est-à-dire que le mec il doit faire 100 kilos, il a 4% de body fat.
C'est même pas bon techniquement, enfin j'ai toujours lu qu'en dessous de 5-6 c'est pas bon.
J'en ai parlé par texto avec lui, ouais, il m'a dit que même il a des médecins qui lui ont dit qu'il devrait faire gaffe parce que ça pourrait entraîner des blessures, ouais.
Exactement. Ah. Voilà. C'est un athlète.
On parle par texto, waouh. Cool, on a des VIP.
Mais ouais, c'est un athlète incroyable. Et moi, par contre, je le vois intérieur NBA. Si Wendy met des trois et tout ça, mais moi, je le vois plus, il peut délire un peu ce que. Ça fait un an et demi que j'ai ça en tête, je le dis, comment Miami a utilisé Derrick Jones. Ouais. Alors, ça nécessite pas mal de choses, mais c'est possible.
Mmh. ça nécessite de jouer à Miami, parce que Derrick Jones, oui, hors du contexte Miami, c'est difficile. C'est
bon. Mais moi, ouais, j'ai adoré Phoenix, hein.
Je comprends ce que tu veux dire. Très bien. Eh bien, c'était parfait. Alors, je vous avoue que plus d'une fois, alors, il y a des blagues que j'ai pas compris, hein, sur les qualités de jeu de certaines facs. Et il y a des joueurs où j'ai cherché en même temps ce qui se passait. Très bien. Mais en tout cas, j'espère que nos auditeurs pourront vous remercier parce que ça a bien débroussaillé un petit peu le terrain. Donc, on y voit plus clair. Pardon. Merci. On rappelle qu'on peut retrouver tout ton travail, Julien, sur Inside Basket pour la draft, pour les Suns, on te voit gazouiller. Effectivement, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Si on parle au bon français sur Twitter avec SunsFR, on t'entend dans le podcast Inside the Hoop et on peut aussi te lire dans la Provence où les auditeurs l'auront compris. Il y a un petit lien avec Yves Ponce qui est plus qu'évident. Et puis, Monsieur Alain Guillou, on peut le revoir sur Envergure et qui va peu dormir, je pense, dans les prochains jours. Très bien.
Ouais, c'est ça. On va dormir pas longtemps là, un petit peu.
Ok, et bah du coup nous on va se quitter là-dessus, on vous rappelle de nous suivre là où vous écoutez le podcast, la plateforme de podcast, sur YouTube aussi pour voir voilà nos magnifiques intérieurs. On est sur du très sobre chez Julien, c'est un petit mur ou je ne sais pas, en tout cas c'est très sobre, c'est très bien. Et puis nous on se retrouve très vite pour parler Free Agency parce que ça arrive très vite. On dit encore une fois bravo à nos bleus pour leur victoire dans cette phase de poule face à Team USA, et comme ils ont pu le dire dans leurs interviews d'après-match, le plus important c'est la suite. Bonne semaine et à plus, salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.